midi 30, 14h,
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1, ici au Salon de l'Agriculture. Ma mission, vous la connaissez chaque jour, vous montrer que oui, les Français innovent et qu'ils créent pour inventer la société de demain. Nous sommes au Salon de l'Agriculture donc, et vous allez voir que le monde agricole aujourd'hui, eh bien oui, il est connecté. La Pompadour, la Rate ou l'Amandine, je suppose que vous connaissez tous leurs noms. Touquet Savour en a fait un métier, spécialiste de la pomme de terre, c'est l'entreprise qui va bien, merci. Enfin, ils emmènent la ferme à la ville avec leur magasin direct du producteur au consommateur au bout des champs et l'entreprise qui a la solution pour nous faire manger en circuit court.
Europe 1.
39-21, on vous attend bien sûr comme chaque jour. Venez, appelez-nous, décrochez votre téléphone, vous serez en direct avec nous sur Europe 1, ici au Salon de l'Agriculture. Et puis il y a Twitter également, Marlène.
Oui, Twitter avec le hashtag Europe 1, 39-21, je rappelle, 50 centimes la minute.
Oui, ici au Salon de l'Agriculture, ça marche quand même. Hein. Vous êtes avec nous. On attend évidemment toutes vos questions, toutes vos remarques parce qu'aujourd'hui, justement, nous allons parler d'agriculture connectée pour accueillir nos invités à mes côtés. Cette semaine, Benjamin Lévesque nous accompagne. Bonjour Benjamin.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Et notre coach très connecté aussi, Nicolas Chabanne, fondateur de C'est qui le patron ? Bonjour Nicolas.
Bonjour Raphaël.
En 2010, écoutez bien, 63% des agriculteurs étaient connectés. Et depuis, évidemment, le chiffre n'a cessé d'évoluer. La moitié des agriculteurs connectés le sont aujourd'hui dans un but professionnel. Et parfois, ils se regroupent. Bonjour Denis Beauchamp.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes président de l'association France Agri Twittos. Comme son nom l'indique, voilà. On est sur Twitter. Vous travaillez vous-même pour une coopérative agricole dans l'Allier. Et vous êtes, hein, ça tombe sous le sens, d'une famille d'agriculteurs.
Effectivement, oui.
Alors racontez-moi, comment naît l'idée justement d'une communauté de Twittos agriculteurs et surtout pourquoi faire ?
Alors pourquoi faire ? On avait France Agri Twittos, donc c'est une association qui regroupe à la fois des agriculteurs de toute la France, de toute origine, toute production.
Ça dit des... tout, France Agri Twittos.
Voilà. Et des gens de la filière agricole comme moi, qui travaillent dans l'agriculture sans être agriculteurs. Et on était tous motivés par la même envie de partager notre métier, de parler de l'agriculture telle qu'elle est réellement, parce qu'on avait tous fait le même constat au fil du temps, c'est qu'il y avait un fossé qui s'était creusé entre l'agriculture, la réalité de l'agriculture telle que nous, nous la vivions tous les jours, et telle qu'elle était perçue par le reste des Français. Et ça vient du fait de plein de choses, du fait que les gens n'ont plus de lien avec l'agriculture, de liens familiaux, je veux dire, avec l'agriculture. Et puis peut-être que le monde agricole aussi n'a pas réussi à prendre le temps d'expliquer ses méthodes, ses pratiques, comment...
Donc
travaille.
Le besoin de montrer voilà. Une autre image de, du
voilà,
monde agricole.
De montrer tout simplement la réalité des choses.
Twitter, ce n'est pas forcément le réseau, vous serez d'accord avec moi, le plus développé chez les agriculteurs. Je crois que
non.
C'est encore Facebook.
Hein. C'est encore Facebook, effectivement.
Pourquoi ?
Alors, on a choisi Twitter parce que c'était le réseau le plus... On avait le plus d'interactivité, on pouvait le plus répondre, on pouvait avoir le plus d'échanges, que ce soit avec la société, les Français ou même parfois des personnages politiques, des journalistes. Et c'est là où on a le plus d'interactions, vraiment.
Alors justement, je voudrais qu'on regarde les chiffres de l'agriculture connectée. Avec vous, Benjamin, ça donne quoi ?
Alors, selon un rapport du ministère de l'Agriculture, 8 agriculteurs sur 10 utilisent Internet. C'est bien plus que la moyenne française. Des éleveurs ou viticulteurs assez geeks, donc, qui utilisent aussi beaucoup leur smartphone. 70% installent des applications professionnelles. Alors, ça a été un boom ces dernières années, plus 110% entre 2013 et 2015. Et parfois, eh bien, ce sont des choses très simples, puisque la plupart des agriculteurs consultent la météo en ligne plusieurs fois par semaine. Enfin, on sait que près de la moitié est équipée de GPS.
Alors racontez-moi, qu'est-ce que Twitter apporte justement au métier d'agriculteur et qu'est-ce que les gens vous apportent dans les échanges que vous pouvez avoir avec eux ?
Twitter, c'est une fenêtre qu'on ouvre sur les fermes, sur les exploitations agricoles. Ça nous permet de toucher les gens qui sont nos consommateurs finaux à la fin, finalement, et de leur démontrer comment sont produits les produits justement qu'ils vont manger à la fin, de montrer comment on travaille. Ça permet de recréer du lien, un lien qui s'est perdu au fil du temps parce qu'on avait laissé un peu la communication agricole peut-être, soit à l'agroalimentaire, à la distribution.
Ça signifie que si j'ai envie de vous demander, on parlait tout à l'heure tiens, du prix des légumes et des fruits, si j'ai envie de vous dire mais je ne comprends pas pourquoi je trouve des courgettes alors que la courgette c'est quand même quelque chose qui pousse assez facilement, pourquoi elles sont si chères en ce moment, vous allez me répondre.
Oui, vous pouvez poser la question, on trouvera quelqu'un de l'association qui fait des légumes et qui vous dira pourquoi, voilà, qui vous répondra.
Et alors quel est le sujet de discussion qui revient le plus dans vos discussions à vous ?
Dans les discussions avec le grand public, on va dire, il y a deux thèmes principaux. C'est très simple, c'est les céréales et l'élevage. Donc ce sera la production de céréales, comment elles sont produites, de quelle manière, avec quels intrants, et pour l'élevage, eh bien, ce sera le bien-être animal. Comment est-ce qu'on s'occupe des animaux, qu'est-ce qu'on leur fait, comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils mangent aussi. On dit que les vaches mangent de l'herbe, principalement en France. Les gens sont surpris parce qu'ils ne le savent pas, mais pourtant c'est une évidence. Ils mangent de l'herbe et des céréales. Et c'est les deux thèmes qui reviennent le plus souvent. Donc on explique tout simplement, quand on produit des céréales, eh bien on produit avec certains intrants, de moins en moins évidemment, pour avoir un résultat, une céréale et un produit qui soit de bonne qualité et qui soit pas trop cher pour tout le monde.
Alors que dit notre coach Nicolas Chabanne ?
Y a une vraie révolution qui est en train de se faire. Internet, les réseaux sociaux, et comme vous l'avez très justement dit, le consommateur, il y a une seule chose qui vraiment l'importe, comment est fait le produit. Et si on peut parler directement évidemment au producteur, lui poser des questions, rien n'est plus simple d'envoyer un message évidemment sur Internet, poser des questions plus ou moins dérangeantes aussi pour peut-être des industriels, des acteurs qui voudraient éviter ces questions. On arrive à un rendez-vous fabuleux qui est en train de se faire entre des consommateurs et des producteurs. Quelle incidence vous avez vue dans votre métier après ces mois et ce développement merveilleux que vous avez fait autour de Twitter et des réseaux sociaux ?
Alors c'est assez petit à petit, mais on sent, Denis, en tout cas aux gens, avec les gens à qui on parle, la perception change. Ils viennent nous voir avec plein d'idées reçues, voire des certitudes. Ils en repartent avec d'autres idées ou au moins des doutes, et surtout avec de la nuance. Parce qu'on est souvent dans un débat tout bien, tout mal, c'est blanc ou c'est noir. L'agriculture, c'est très varié. Il y a 500 000 agriculteurs, il y a 500 000 façons de faire l'agriculture. Donc c'est ça aussi qu'on apporte. Et on voit qu'on arrive à faire bouger un peu les choses, à faire bouger la perception aux gens qui en parlent, bien sûr. Et après, comme c'est public, comme c'est sur Twitter, on imagine que ça marche un peu plus loin.
C'est aussi utile, je crois, arrêtez-moi si je me trompe, pour les remontées des stations météo connectées. Ça vous aide aussi à apporter des informations aux autres et à les échanger.
On partage beaucoup entre nous, effectivement. Au début, d'ailleurs, on n'était vraiment qu'entre nous. Depuis la fondation de l'association, on s'est mis à communiquer vers l'extérieur. Effectivement, on parle beaucoup entre nous. Il y a des conseils qui se demandent sur des points très techniques, des points de machine, des points de culture, des points d'élevage. Et il y a beaucoup, beaucoup d'échanges qui se font là-dessus, effectivement.
Oui, vous considérez que le smartphone, il a vraiment, vraiment changé la vie des agriculteurs, le quotidien des agriculteurs.
C'est devenu indispensable, oui.
Vous pouvez découvrir des choses simples en une seconde. Les premiers fourrages, vous filmez, c'est le début. Les premiers jours où les vaches vont aller au pâturage. Mais c'est clé pour un consommateur de savoir.
Il y a quelques semaines, on a fait un tweet pour dire en ce moment, les agriculteurs sont en train de semer la bière que vous allez boire cet été.
Oui. C'est tout simple. Ça parle, c'est une image. Les gens comprennent comment ça se passe et les différentes étapes.
Il n'y a pas plus légitime qu'un agriculteur pour parler d'agriculture, finalement. C'est ça la clé.
On va parler d'agriculture et d'agriculture connectée. On reste ensemble sur Europe 1.
Il est 13h08.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Des agriculteurs connectés, c'est aussi dans leur smartphone une nouvelle appli à leur service. Elle s'appelle Agri Community. A tout de suite.
Jusqu'à 14h, vous écoutez La France bouge en direct du stand France Terre de Lait au Salon de l'Agriculture avec vous, Raphaël Duchemin, qui est changé sur l'agriculture connectée aujourd'hui. 3921, le standard d'Europe 1. Si nos auditeurs souhaitent intervenir, témoigner, poser une question à votre invité, ils nous laissent un petit message et on les rappelle. Et puis il y a aussi les réseaux sociaux, Twitter, avec le hashtag Europe 1.
Oui, on va même avoir un micro qui va circuler justement. Si vous êtes à proximité de nous, ici sur le stand France Terre de Lait, vous pourrez tout à l'heure poser les questions directement à nos invités. On parlait il y a quelques minutes, ici au Salon de l'Agriculture, de la question première que se posent aujourd'hui tous les exploitants agricoles. Eh bien, c'est pour les aider à gérer cette question, c'est-à-dire la part de phyto, par exemple, sur les exploitations. C'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent. Qu'est né, entre autres, Agri Community. Bonjour Charles-Édouard Lhopiteau.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le PDG d'Agri Community, qui est toute jeune, je crois qu'elle a été lancée en septembre 2018, c'est ça ?
Oui, tout à fait. C'est une application qui a été lancée en septembre 2018 à l'occasion du salon d'Innovagri, qui était dans le Loiret.
Alors, vous êtes avec un parcours intéressant, parce que vous êtes, vous aussi, d'une famille d'agriculteurs. Ce sont vos parents qui sont dans l'Eure-et-Loir. Mais vous avez travaillé dans l'industrie, chez Alstom, chez Areva, je crois. Mais il y a 7 ans, en fait, on vous a donné la possibilité de reprendre une exploitation. Et alors, vous avez sauté le pas. Racontez-moi, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ?
Exactement. Alors, moi, je suis donc effectivement issu d'une famille d'agriculteurs. Donc, j'ai toujours été animé par cette passion. Avant de revenir sur une exploitation, donc effectivement, il y a 7 ans, j'ai souhaité un petit peu voir autre chose. Et donc, j'ai travaillé dans l'industrie pendant 10 ans. dans l'énergie et notamment dans l'énergie éolienne. Et puis j'ai eu l'opportunité de reprendre une exploitation en Eure-et-Loire à côté de Chartres. Et donc je suis, depuis 7 ans, je suis exploitant agricole sur une exploitation en grande culture.
Alors vous avez du colza, du blé, de l'orge, c'est ça ?
Oui, colza, blé, orge, entre autres. Et puis des cultures plutôt de printemps, type que maïs, pommes de terre et betteraves.
Alors comment est-ce que vous en venez justement à imaginer cette appli ?
Alors, le départ, en fait, c'est parti un petit peu d'un constat. C'est-à-dire que les agriculteurs, la base du métier, c'est l'observation. Toutes les actions que l'on fait, que ce soit le semis, la récolte ou les protections de nos cultures, sont basées sur l'observation. Je me suis aperçu que les agriculteurs, effectivement, le mentionné juste avant, échangent beaucoup, que ce soit sur téléphone ou par email sur les informations techniques des cultures. Mais il y avait toujours un décalage. Et en fait, j'ai eu l'idée au tout départ de dire, mais est-ce qu'on ne pourrait pas communiquer beaucoup plus largement sur des observations métiers ? Et c'est là qu'est née AgriCommunity, de dire on partage.
C'est-à-dire des observations. Par exemple, vous voyez sur vos cultures un puceron, vous le signalez à la communauté ?
Exactement. Pour bien comprendre, je vais prendre un petit peu l'image. Quand vous êtes sur la route, vous pouvez utiliser des réseaux communautaires d'alerte, par exemple Waze ou Coyote, qui vont vous avertir des problématiques de bouchons, de contrôle, etc. sur la route. Nous, c'est le même principe, c'est de dire, mais en fait, les problématiques que mon voisin agriculteur peut avoir, mais moi, je peux avoir les mêmes. Et si on les partage, on est capable d'être beaucoup plus précis dans nos
positionnements. Et d'agir en amont aussi, éventuellement, voilà, pour que ça n'aille pas sur d'autres parcelles.
Exactement, d'anticiper. Si on prend, par exemple, le cas d'un foyer de rouille jaune qui peut concerner des cultures de blé, on est capable, en ayant vraiment toutes les informations sur ce qui se passe autour, d'être capable de protéger plus efficacement ces cultures.
Et alors, ça démarre dans le département, et puis petit à petit, évidemment, ça grossit. Aujourd'hui, vous êtes partout en France ?
Alors aujourd'hui, on est essentiellement sur la moitié nord-ouest de la France. On a lancé l'application donc effectivement en Eure-et-Loire. Donc en Eure-et-Loire, on est assez, on a plus de 150 utilisateurs en Eure-et-Loire. Et en France, on a aujourd'hui 650 utilisateurs. Donc que ce soit agriculteurs, pour à peu près 80% de nos utilisateurs, et également conseillers des cultures.
Oui, des chambres d'agriculture qui sont intéressées aussi par le système mis en place. Hein.
Exactement, des chambres d'agriculture, des coopératives et des négoces. Des sociétés de conseil.
Et c'est gratuit cette appli ?
L'application est gratuite en téléchargement sur les réseaux sociaux, effectivement. Et ensuite, on a une version un petit peu plus premium pour les coopératives et nos partenaires.
Notre coach, Nicolas Chaban.
Encore un très bel exemple de ce que peut amener le monde connecté, évidemment, aux agriculteurs. Mais moi, j'ai un rêve. Pourquoi est-ce que nous, consommateurs, on ne saurait pas finalement que vous avez traité ou moins traité, parce que ça mettrait aussi en valeur une chose qui est une idée reçue un peu absurde côté consommateur, le producteur qui traiterait pour traiter absolument et n'importe comment. Si on peut nous avoir cette info côté consommateur, on valorisera forcément le travail du producteur et on pourra comme ça créer peut-être une chaîne d'équité supplémentaire et de transparence. Est-ce que vous avez pensé à amener ces infos jusqu'aux consommateurs ?
Charles-Édouard Lhôpitaux.
Alors effectivement, c'est un véritable sujet. On est malheureusement parfois un petit peu stigmatisé sur le fait que voilà, les agriculteurs veulent protéger avec des produits phytosanitaires leur culture. Je pense qu'il faut être plus réfléchi et de se dire, mais aujourd'hui, moi en tant qu'agriculteur, plus je peux être précis, moins j'utilise de produits phytosanitaires, mieux c'est pour l'environnement et également pour l'économie et la trésorerie des exploitations.
De donner les infos jusqu'aux consommateurs pour qu'ils s'en rendent compte. Vous les avez,
donc,
les infos.
Voilà, et donc effectivement, AgriCommunity permet également d'avoir une traçabilité de nos activités. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, on a fait une protection, mais la protection, on ne l'a pas fait comme ça, parce qu'on avait envie. On l'a fait sur la base d'une observation, et c'est ça qui est important. Et effectivement, on a toute une démarche aujourd'hui à créer, parce que le projet, comme on l'a dit tout à l'heure, a démarré au mois de septembre, et il y a toute une démarche à créer pour dire, ben voilà, on travaille de façon réfléchie, et on est capable de tracer notre travail.
Benjamin, justement, c'est aussi à ça que sert en grande partie Facebook, hein, puisque c'est le moyen le plus utilisé encore aujourd'hui par les agriculteurs.
Oui, on va prendre l'exemple d'AgriFind. Alors c'est à la fois un réseau social entre agriculteurs où on va pouvoir discuter directement.
Je vois qu'ils connaissent manifestement.
et c'est aussi dans la même à la manière de AgriCommunity où il y a une carte géolocalisée avec toutes les alertes des maladies ravageuses qui sont autour de soi. On a aussi des fiches pratiques avec la liste des maladies et les bons réflexes justement pour protéger sa végétation. Enfin, on a aussi une méthode météo qui est très précise à 14 jours et qui facilite comme ça le bon usage des produits phytosanitaires en fonction du temps et de la température.
Et puis je crois que vous avez trouvé une plateforme d'intelligence collective pour les agriculteurs ou les céréaliers, c'est-à-dire
ça qu'est-ce que c'est que cette plateforme FarmLib. Je vais vous expliquer comment ça marche. En fait, c'est un site ou une application où le cultivateur va pouvoir intégrer des informations sur la manière dont il travaille. En fait, quand est-ce que j'ai semé, quelle variété de maïs, et toutes ces données, elles vont être collectées et on va pouvoir se comparer entre voisins et ainsi identifier les marges de progrès pour s'améliorer.
Denis Beauchamp, Charles-Édouard Lhôpitaux, finalement, ce sont de nouveaux outils qui vous permettent d'être encore plus précis dans le travail que vous faites, d'être encore plus ensemble finalement aussi, parce que vous vous parlez via les réseaux sociaux, même d'un bout à l'autre de la France. Et puis, ça permet aussi d'être en lien direct. Donc, c'est tout bénéfice pour vous.
Oui, totalement. Ça permet de recréer du lien avec le consommateur. Le
et pour nous aussi,
perdu,
du coup.
Et pour vous aussi, d'être beaucoup plus rassuré sur comment on travaille, comment sont produits les céréales ou comment sont élevés les animaux. Et ça fait tomber beaucoup de malentendus, beaucoup de clichés, beaucoup de stéréotypes. Et ça amène beaucoup de sérénité dans les discussions aussi.
Charles-Édouard Lhôpitaux.
Oui, je suis d'accord sur l'aspect sérénité. C'est-à-dire qu'on, quand on parle d'un sujet, c'est tout une question de point de vue. Et en fait, le fait de pouvoir partager comme ça, ça permet de dire, les points de vue sont différents. Et en fait, ça nous aide à comprendre un petit peu comment fonctionnent les autres. Et donc, aux consommateurs, de savoir comment est-ce que nous, on fonctionne agriculteurs.
On reste ensemble et on continue ici au Salon de l'agriculture sur Europe 1 à parler d'agriculture connectée aujourd'hui.
Il est 13h19.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Si je vous dis Mimosa, vous pensez bien sûr à la fleur jaune. Eh bien, détrompez-vous, c'est aussi une plateforme de financement pour les projets agricoles. À tout de suite.
Il est 13h21. L'agriculture est en constante évolution. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'agriculture connectée dans La France Bouge avec vous, Raphaël Duchemin et vos invités, et ce depuis le Salon de l'agriculture.
Oui, Marlène, et c'est vrai qu'il y a en France des jeunes agriculteurs qui veulent se lancer, mais parfois entre le projet, la réalisation, il faut, c'est vrai, résoudre tout un tas de problèmes et il n'y a pas forcément quelqu'un en face pour tendre la main, notamment quand il s'agit de questions liées au financement. Bonjour Florian Breton.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. C'est pour ça que vous avez créé Mimosa avec deux i, je le précise. C'est la première plateforme de financement. Vous avez tout lâché parce que vous n'étiez pas du tout là-dedans pour vous lancer en 2015. C'était pas votre truc au départ.
Alors, en partie, oui, tout de même. Je suis moi-même issu d'une famille d'agriculteurs et de viticulteurs dans le sud de la France. Alors, comme vous le rappeliez, j'ai eu une première vie professionnelle. Oui. Donc, pendant 7 ans, j'ai travaillé plutôt dans les médias à Paris avant de tout planter, en effet, pour lancer Mimosa, première plateforme en Europe, même dédiée à l'agriculture et à l'alimentation. Sur la base de trois constats finalement. Le premier, c'était qu'aujourd'hui, les agriculteurs, et c'est encore plus vrai dans une période de transition et transformation du modèle français, rencontrent des difficultés aujourd'hui à financer leurs projets d'installation, de renouvellement des générations, de développement d'activités. Deuxième constat, la tendance sociétale aujourd'hui qui s'affirme, et Nicolas en est un bon exemple, avec des consommateurs qui souhaitent devenir acteurs de leur alimentation.
Coach.
Et quoi de mieux finalement que de proposer au grand public aussi de financer les projets. Et puis troisièmement, cette belle finance alternative se développe à grande échelle dans les pays développés. Et ne touchez pas l'agriculture quand on s'est lancé il y a tout juste 4 ans, puisque c'était à peine l'agriculture 0,1% des projets proposés au grand public.
Alors racontez-moi, ça marche comment ? On s'inscrit, on donne un projet, on donne à un projet qui nous plaît, on peut choisir
Alors en tant que consommateur, citoyen, épargnant, en effet c'est très simple, il suffit de se rendre sur mimosa.com et de faire le choix de soutenir des agriculteurs en fonction de la filière, en fonction d'un territoire, en fonction de l'outil de financement, puisqu'aujourd'hui on propose aux agriculteurs soit ce qu'on appelle le don avec contrepartie en nature, donc là les citoyens sont récompensés par des produits, des séjours à la ferme ou des expériences comme une initiation par exemple au métier d'éleveur, et le deuxième choix que peuvent faire les citoyens aussi c'est directement de prêter.
Oui, c'est ça, vous avez les deux systèmes. On donne ou on prête, ça dépend. Les prêts, vous les avez lancés en 2018, je crois, avec des taux d'intérêt qui sont relativement bas, 3,5.
Ouais.
Vous avez aidé combien, justement, d'agriculteurs avec ce type de projet ?
Alors, avec cet outil de financement, donc le prêt participatif, on a accompagné à peu près 45 projets en l'espace d'un an. Mais en tout, Mimosa, agriculture, alimentation locale, c'est près de 2000 projets accompagnés en tout juste 4 ans. Et à l'heure où je vous parle, sur l'ensemble des territoires français, il y a près de 150 projets en cours de financement. Donc, chaque citoyen peut faire le choix de son département, de sa thématique, de sa filière ou de l'agriculteur qu'il souhaite soutenir.
Et les prêts, ils servent à quoi ? Acheter un terrain, par exemple ? exemple, replanter quand il y a des cas de calamité agricole?
C'est assez varié. Finalement, aujourd'hui, 25% des projets, 25-30% des projets que nous accompagnons sont des projets d'installation, de création d'activité, donc des exploitants qui se lancent, des jeunes. Et 60-70% des projets qu'on accompagne sont plutôt des projets de développement, donc de l'acquisition de foncier, de l'élargissement de cheptel, de la stabulation, du matériel, du financement aussi de trésorerie. Vous savez qu'en agriculture, il y a quelquefois des besoins de financement qui sont assez immatériels, à la trésorerie, un petit aléa climatique qu'on doit supporter. Et là, le prêt est un soutien complémentaire aussi aux banques, puisque cela permet aux citoyens de placer leur épargne et de percevoir, au-delà du sens et de la transparence du produit, des intérêts sur leur placement allant jusqu'à 3,5%. Donc avouez que c'est mieux que le livret A.
Une question de notre coach, Nicolas Chaban.
D'abord un constat, vous imaginez ce qui est en train de... Je pense à nos grands-parents là, qui redécouvraient le monde tel qu'on le voit aujourd'hui à travers cette émission. Il y a ce fameux rendez-vous consommateur-producteur qui se fait. Vous avez la possibilité, quand vous êtes consommateur, d'identifier ce que fait un producteur, de le financer pour qu'il fasse peut-être mieux encore en qualité, en transparence. Voilà à quoi sert effectivement une plateforme comme Mimosa. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il y a beaucoup de projets qui se font localement? Parce que je peux financer quelqu'un que je peux aller voir aussi le lendemain jusque sur son exploitation. Est-ce que ça, c'est une grande tendance ou pas?
C'est une très grande tendance, même sur la plateforme. Je vais dire que quand on interroge les 150 000 personnes qui sont inscrites aujourd'hui sur Mimosa, il y a deux principaux leitmotivs qui ressortent. Un, c'est la thématique, l'agriculture et l'alimentation. Et deux, c'est le territoire. Et à peu près 70% des fonds proviennent de la même région que la région finalement du projet et de l'agriculteur, parce qu'au-delà du financement, ce que souhaitent les gens, c'est se reconnecter, créer du lien social, impacter son territoire.
Vous imaginez, Raphaël, c'est le lien le plus direct qui soit. Si je finance un producteur près de chez moi, en lui parlant, je lui permets de me faire de meilleurs produits. Donc c'est gagnant-gagnant.
Vous êtes présent en France, et puis désormais en Belgique, et puis c'est en train de grossir.
Oui, tout à fait. Alors après, c'est vrai que l'Europe n'est pas très gentille avec les plateformes de financement participatif, on va dire, puisque l'Europe est une mosaïque de régulateurs et de législations différentes. Donc à chaque fois qu'on ouvre un pays, on est obligé d'obtenir des agréments. Et ça, c'est un peu complexe, mais les États membres devraient être d'accord a priori dans les 18 mois. Donc France et Belgique. Et puis on a dernièrement lancé aussi un nouveau produit qui s'appelle MimosaTransition.com, qui accompagne des projets de transition agricole, alimentaire et énergétique de plus grande échelle, puisqu'on a une capacité de financement qui peut aller jusqu'à 1 million d'euros pour des grandes exploitations françaises en transformation de modèle.
Je crois que Benjamin avait une question.
Oui, j'ai une question. Est-ce qu'il y a un contrôle, il y a un suivi pour éviter de se retrouver dans la situation où je paye 15 jours de vacances aux Bahamas à l'agriculteur?
C'est un très bon exemple. Oui, il y a un suivi qui est réalisé par les équipes. Et puis après, n'oubliez pas, je pense qu'on vit finalement les mêmes choses avec Nicolas ou d'autres acteurs sur... Avec le lien social qui est créé, la confiance qui est créée sociétalement, les agriculteurs étant des personnalités quand même très dignes aussi, il n'y a pas de rupture de confiance et ils sont les premiers ambassadeurs de leur projet. Et ça se passe très bien, on finance exactement ce qu'on dit. Et dans le prêt, c'est encore plus vrai, parce que finalement, on est même 7 ou 8 fois sur 10 en cofinancement bancaire. Donc derrière, forcément, les circuits de financement sont originés exactement pour ce qui est proposé par le producteur.
On reste ensemble, on continue à parler agriculture connectée aujourd'hui sur Europe 1 au Salon de l'Agriculture.
Il est 13h27.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et on vous attend, hein, vous avez la parole, 3921, Twitter, ici, le micro va circuler aussi. C'est la France qui bouge, avec vous au Salon de l'Agriculture.
Il est 13h30, on retrouve Raphaël Duchemin en direct du Salon de l'Agriculture pour la suite de La France bouge et on va continuer à parler d'agriculture connectée. Hashtag Europe 1 sur Twitter si vous souhaitez réagir à l'émission.
Eh oui, nous sommes toujours avec Nicolas Chaban, fondateur de la marque C'est qui le patron? C'est notre coach aujourd'hui. Benjamin Lévesque est à mes côtés et nos invités. Denis Beauchamp, président de l'association France AgriTwittos, Charles-Édouard Lopiteau, fondateur d'AgriCommunity et Florian Breton, fondateur de la ferme digitale et de Mimosa, le premier site de crowdfunding pour l'agriculture. Et puis, on accueille Anna qui est avec nous, qui est agricultrice et qui a eu envie de pousser la porte du studio d'Europe 1. Bonjour Anna.
Bonjour à tous.
Vous êtes agricultrice de quel côté?
Alors, je suis agricultrice en Franche-Comté, dans le Doubs.
Bon. Et alors, quand on parle d'agriculture connectée, c'est quelque chose qui vous parle, je suppose?
Oui, 100%.
Ça vous a changé la vie?
Vous
êtes sur quoi? Twitter, Facebook?
Twitter, Facebook. C'est une bonne communication pour notre métier. Donc, mais je reste sur mes propos. La base de la communication, c'est faites visiter vos exploitations agricoles.
Oui, alors voilà. Pour les faire connaître, vous avez peut-être besoin effectivement de ces messieurs qui sont avec nous. Vous connaissiez les différents services proposés par AgriCommunity, par France Agritutos?
Oui, Agricultos, mais pas le reste. Oui. Mimosa, je connais parce que je fais partie, je suis administratrice du Crédit Agricole, donc je connais systématiquement.
Eh oui, voilà. parce qu'effectivement, c'est là pour financer les projets. Mmh. Qu'est-ce que vous dites, vous, sur les réseaux sociaux, justement?
Eh bien, moi, j'ai 3 pages Facebook. Donc, j'en ai une où j'ai mon exploitation, où j'explique mon métier de A à Z. Donc, aujourd'hui, ben, je leur ai dit que j'étais là. Donc, voilà. Après,
et du coup, ils viennent vous voir?
Oui, ben, ils viennent sur ma page. Et sur Twitter, eh ben, pareil, quoi. Je fais... Et tout à l'heure, j'ai fait une table ronde avec Agri Demain. On a invité les consommateurs et je leur ai proposé le Emmental Grand Cru qu'on fait chez nous. Et donc, ils ont goûté notre Emmental Grand Cru.
Et oui, ça fait toute la différence, hein, Nicolas. On en revient toujours aux consommateurs,
voilà,
et à la relation.
Voilà. Et au rendez-vous. C'est-à-dire que vous avez d'un côté les producteurs qui donnent de plus en plus d'informations. Et je vous signale quelque chose. Pardon, mais je vais faire un peu de pub. À la nouvelle chaîne des consommateurs et des citoyens. Voilà,
je vous reconnais bien là, ouais, Nicolas.
Je me suis fait engueuler sur France 2, mais j'aurai votre indulgence. Mais vous avez là, pour la première fois dans le salon, dans les allées du salon, des consommateurs.
Qui... Ah, je les ai vus passer avec les téléphones.
Voilà, qui créent. Il y a une équipe. Donc, c'est la chaîne des consommateurs et des citoyens. Ce sont vraiment les consommateurs qui vont poser des questions aux producteurs, aux fabricants. Il n'y a plus de filtre entre les producteurs et les consommateurs. Et finalement... ces deux mondes se rapprochent en même temps, donc ça doit faire un beau rendez-vous.
Et c'est aussi ce qu'essayent de faire nos invités. J'avais une question justement pour vous, Florian Breton. J'ai vu que vous aviez lancé Mimosa Transition. Ça, c'est un peu à part. C'est quoi? C'est pour aider les agriculteurs justement à faire du bio, à parler bien-être animal. Ça fait partie des questions, on le disait, hein, qui reviennent le plus souvent finalement dans les questions que posent les consommateurs.
Exactement. En fait, Mimosa est une plateforme qui est plutôt dédiée à ce qu'on appelle une agriculture et une alimentation locale. Donc plutôt vivrière, territorialisée, diversifiée, non travaillant finalement avec des grandes coopératives ou des grands industriels de l'agroalimentaire, avec deux offres de financement, le don et le prêt, j'en parlais tout à l'heure. Mimosa Transition est plutôt dédiée à une grande agriculture, celle qui nous nourrit à plus de 80%, celle qui est exportatrice, celle qui a une responsabilité mondiale aussi dans l'alimentation de l'humanité sans forcément détruire la planète. Et c'est une grande agriculture aujourd'hui qui se réinvente et qui se transforme. Donc on parle de la bio, de la bientraitance animale, des énergies renouvelables, du stockage du carbone, de la production de la biodiversité. Et on a obtenu donc un nouvel agrément auprès de l'autorité des marchés financiers. Mimosa Transition permet aussi aux entreprises, sur leur trésorerie, de placer leur argent pour accompagner cette transition et cette transformation
mais du
modèle
français. Mais j'ai vu
que
derrière, il y avait des grandes marques, je pense à Carrefour par exemple. On ne peut pas faire sans les grandes marques. On est obligé de travailler avec elles sur des projets comme
ça,
celui-là.
Ça, c'est l'enjeu que nous portons aujourd'hui. Si on veut changer les choses et impacter à grande échelle, en tout cas, l'agriculture française, il faut que tout le monde s'y mette. On ne peut plus repenser l'agriculture sans repenser la chaîne du financement qui repose aujourd'hui malheureusement exclusivement sur un financement européen PAC. Et on est forcément dans des trajectoires de post-Brexit où il y a une menace de descente. Banque, État, et donc désormais les acteurs de l'agroalimentaire doivent aussi se mobiliser pour accompagner leurs fournisseurs ou leurs adhérents quand on est dans un modèle coopératif.
Florian Breton, ce que vous dites, évidemment, ça nous concerne tous, hein, on est d'accord. Je voulais savoir si Charles-Édouard Lhopiteau et Denis Beauchamp pensent la même chose. On est tous dans le même bateau quand on parle des agriculteurs. Bah, c'est vous qui produisez ce que nous mangeons, donc on est forcément concernés.
Oui, forcément, oui, on peut pas faire. Nos agriculteurs ne peuvent pas faire sans le consommateur final et inversement. Et pendant des années, c'est vrai que le lien s'est un peu rompu. Il devenait urgent, vital de se retrouver, de se parler, et de se parler sans filtre, même de dire voilà, nous, voilà ce que nous produisons, voilà ce que vous voulez. Rencontrons-nous comme ça et nous, on va vous montrer comment on travaille, tout simplement avec beaucoup de bienveillance et de gentillesse.
Et si vous avez inventé ces outils, c'est évidemment pour ça aussi, hein, Charles-Édouard Lhopiteau.
Effectivement, c'est pour recréer du lien entre les agriculteurs sur des sujets techniques, mais c'est également pour montrer aux consommateurs que l'agriculture évolue et c'est pas que matériel, c'est également les liens qu'on peut avoir entre agriculteurs. Et effectivement, je rejoins les propos tout à l'heure de notre invité parler sur le fait de faire visiter sa ferme, et je rejoins complètement ça. Aujourd'hui, les agriculteurs ouvrent leur ferme vraiment très facilement et chaque consommateur peut aller voir un agriculteur et il y aura toujours une acceptation de dire bah voilà, venez voir comment ça se passe chez nous, venez passer un petit peu de temps. Il y a eu des opérations notamment cet été, je vous l'ai souligné, sur la visite des moissons moissonneuse, il y a eu une plateforme sur Internet qui a permis en fait aux personnes qui ont toujours rêvé d'aller voir des moissonneuses, d'être à côté d'un agriculteur pendant une demi-heure ou une heure et de voir le métier d'agriculteur. Et voilà, ça c'est des initiatives que je trouve très, très intéressantes.
Nicolas Chaban. Bah,
l'émission du jour le montre bien. Le monde où on ne savait pas qui faisait notre produit, ce que gagnait le producteur, comment il était même dans sa sensibilité, son approche de son métier, ça c'est fini. Il faut qu'on s'empare de ce formidable outil que sont les réseaux sociaux, et le numérique et le digital. Et ce rendez-vous, il va se faire naturellement. Et tous les grands acteurs seront très respectueux de ce rendez-vous entre les producteurs et les consommateurs. Et ça va beaucoup vous soulager côté production.
Merci à tous d'être venus participer à ce débat avec nous aujourd'hui sur Europe 1. Et j'en profite, vous parliez de rémunération. Ce sera justement le sujet que nous aborderons demain dans La France qui bouge. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur Europe 1.
Merci. Il est 13h36.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Ne bougez pas dans un instant, elle existe depuis 1967 et nous montre que la pomme de terre est plurielle, tout qu'est savour et l'entreprise qui va bien, merci.
Vous écoutez La France bouge jusqu'à 14h avec Raphaël Duchemin, toujours en direct du Salon de l'Agriculture. On va s'intéresser maintenant à une entreprise qui va bien.
Eh oui, et cette entreprise, Marlène, c'est Touquet Savour. Vous la connaissez si vous achetez vos pommes de terre, notamment en grande surface. C'est probablement elle qui les a mis en filet. Bonjour Alexis De Kitt.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Sur Europe 1, c'est votre père, hein, je crois, qui a créé l'entreprise en Picardie, près d'Amiens.
Oui, mon père avec deux autres producteurs passionnés. Effectivement, ils ont créé ça il y a une bonne vingtaine d'années.
Alors racontez-moi, comment lui vient l'idée de monter Savour, Touquet Savour? Parce qu'il y a, je le disais tout à l'heure, 1967, il y a un ancêtre.
Tout à fait. En fait, c'est mon grand-père maternel, le beau-père de mon père, qui était passionné par deux choses, les chevaux et les variétés de pommes de terre. Et un jour, il est tombé sur une vieille variété alors cultivée en Auvergne, qui s'appelait la rate. Et il s'est passionné de ce tubercule. Et après, mon père a repris le flambeau pendant une cinquantaine d'années pour développer cette variété et bien d'autres.
Bien d'autres, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, combien de variétés de pommes de terre existent-ils?
Alors, il existe déjà beaucoup de variétés en France. Je crois qu'il y en a plus de 200 qui sont commercialisées. Et notre société en commercialise une vingtaine.
Une vingtaine dans les filets. C'est vous qui avez eu justement l'idée comme ça du packaging, de mettre les pommes de terre dans un petit filet qui soit utile aux consommateurs. On en revient toujours à lui.
Voilà, c'est sûr que notre société s'est spécialisée dans les petits conditionnements et les variétés dites gustatives. Et on s'est rendu compte que bon, il y avait de plus en plus de monoménages, les gens faisaient leurs courses plusieurs fois par semaine et qu'il fallait offrir un petit peu de service aux consommateurs. Et en fait, passer du sac 5 et 10 kilos qu'on trouvait autrefois, il y a une vingtaine et une trentaine d'années, à des packaging plus faciles à rapporter à la maison.
Vous emballez 25 000 tonnes de pommes de terre chaque année, c'est ça?
Ça peut paraître beaucoup, mais c'est pas tant que ça. Parce que
ça me semble énorme comme ça.
Les Français consomment 900 000 tonnes de
pommes
de terre.
On est des gros consommateurs de pommes de terre.
Comme les Allemands et les Anglais, la pomme de terre, c'est quelque chose qui tourne bien. En France, on en cultive près de 6 millions et si on rajoute ce qui est cultivé dans les jardins, ça fait 1,2 million consommés par les Français.
Vous avez fait, je crois, labelliser certains de vos produits, hein, la Pompadour, par exemple. Elle est là, d'ailleurs, elle est avec nous sur
Exactement,
Europe 1, dans le studio, au Salon de l'Agriculture. Qu'est-ce qu'elle a de spécial?
Alors, c'est une pomme de terre qui est, de notre point de vue, un goût un petit peu au-dessus de la moyenne. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a obtenu le label rouge. On est très fiers de la commercialiser. On est sur le salon justement pour la faire découvrir à tous les consommateurs et en faire un petit peu la promotion. C'est une variété quand même assez difficile à cultiver et qui est cultivée par 6 producteurs en Picardie.
Justement, vous en faites travailler combien des producteurs dans la région?
Alors, au global, la société fait travailler une trentaine de producteurs. Spécifiquement pour cette variété, c'est 6 producteurs. Mais en France, il y a beaucoup, beaucoup de producteurs de pommes de terre. C'est un produit bien français.
Oui, il connaît bien la pomme de terre, Nicolas Chaban.
Ah, moins que monsieur, mais...
On n'a pas la pomme de terre du consommateur.
Elle arrive. Ah. Elle arrive. Donc, je ne sais pas s'il y a des discussions entre les équipes de C'est qui le patron et monsieur, mais...
Ah, peut-être. Ou peut-être pas encore, mais peut-être après.
Mais oui, c'est un bon exemple. Là, c'est encore des conditions qu'on connaît, nous. Un produit de qualité... pas fait à partir du marketing et d'une usine une coopérative un peu froide. C'est des générations qui se relaient. Il y a une culture du produit. Et j'avais une question. Est-ce que on vous a fait passer un message quand on vous a remis le flambeau de cette belle entreprise là, qui est très qualitative? Mais qu'est-ce qu'on vous a dit?
Alors déjà, moi, je suis pas tout seul. Il y a ma sœur qui est directrice dans l'entreprise. On a le gène depuis le départ, c'est l'idée du goût du consommateur et de faire plaisir. Mon grand-père était un épicurien, donc il avait à cœur de donner un peu de plaisir aux consommateurs. Donc on essaye un petit peu de valoriser un petit peu tout ce qui peut faire plaisir aux consommateurs, qui peut donner du goût et donner de la diversité dans la
société. Et à vous aussi, hein, vous consommez vos...
Ah oui, quand même.
Ouais, d'accord.
Justement, ces pommes de terre, vous savez expliquer la différence? Parce que souvent, quand on arrive devant un étal, il y a simplement marqué pour la purée, pour les frites. Elles ont un goût différent, toutes les pommes de terre?
Bah, c'est comme le vin. Chaque vin a son terroir, son goût. Est-ce qu'un Bordeaux, c'est meilleur qu'un Pays de Loire ou qu'un Bourgogne? Ça dépend de chacun, ça dépend de ses goûts. Donc pareil pour la pomme de terre, donc il y a des moldes, comme vous le signalez Raphaël, il y a des pommes de terre pour chaque usage, hein. Les frites, les potages.
Quelle variété pour les frites les meilleures.
Quelle variété, c'est ça la question, Nicolas?
Bon, alors, je ne voudrais pas faire de polémique, mais il y a une bonne vieille variété qui s'appelle la Binch.
La Binch, oui.
Qui fonctionne toujours très bien.
Pourquoi polémique? Parce que...
Chacun a les variétés, il y a énormément de variétés, chacun commercialise de façon différente.
Nous, vous êtes nombreux sur ce secteur de la pomme de terre aujourd'hui en France?
Oh, il y a beaucoup, beaucoup de producteurs, des metteurs en marché, il doit y en avoir une cinquantaine dans toute la France, donc c'est quand même un produit facile à conditionner, facile à mettre en marché, à commercialiser dans les supermarchés.
Oui, facile à vendre aussi parce que tout le monde en achète en France.
Exactement, on a de la chance, hein. C'est comme l'eau et le pain, la pomme de terre, ça reste un produit de base. Et qui ne mange pas de pommes de terre?
À un moment, je crois qu'il a aussi fallu vous mettre sur le marché, j'ai envie de dire, du luxe. C'était il y a 5 ans, pour éviter la crise. C'est quelque chose que nous, consommateurs, on n'a pas forcément vu, mais que vous avez ressenti.
Alors, c'est sûr que dans l'agriculture, il y a quand même l'émergence des marques de distributeurs qui est un phénomène assez important. Il faut savoir que globalement, la consommation alimentaire diminue et donc les grandes enseignes de la distribution se font en concurrence. Et pour se différencier les unes des autres, elles ont créé des marques de distributeurs, elles ont créé des cahiers des charges, etc. Ce qui a tendance à complexifier un petit peu notre travail, à réduire un peu nos marges.
Donc, justement, sur le prix de la pomme de terre, il a beaucoup évolué ces 15-20 dernières années?
Il a un petit peu monté, effectivement, parce qu'il y a plus de services. Les pommes de terre sont lavées, sont calibrées, sont triées. Il y a des cahiers des charges. Mais on peut quand même rassurer les consommateurs. On peut encore trouver des pommes de terre et des bonnes pommes de terre à des prix tout à fait accessibles dans les supermarchés.
Nicolas?
Vous parliez des cahiers des charges. C'est toujours la même chose. Vous vous rendez compte que pendant des années, les cahiers des charges, notamment de distributeurs, étaient faits par une poignée de gens qui réfléchissaient, pensaient au nom de tous les consommateurs. On a la possibilité... J'ai entendu parler d'une initiative qui fait ça, d'interroger directement les consommateurs pour créer des produits. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas au plus direct en posant la question concrètement à une famille élargie de consommateurs qui vous renseignera avant d'acheter le produit?
On pourrait tout à fait, mais on l'a déjà fait déjà parce qu'on essaie d'être très présent sur les réseaux sociaux. Et puis les consommateurs, dans l'ensemble, ils veulent des produits qui soient sains au niveau alimentaire, qui ont du goût et qui soient adaptés à leur mode de préparation.
Ça peut être un peu plus fin que ça. Hein. C'est vrai qu'on a tendance à se dire, voilà, ça on le sait depuis 30 ans. Quand on pose réellement la question, le consommateur enlève la carotène du beurre parce que ça n'a aucune importance. Il y a des évolutions auxquelles on ne s'attend pas. C'est intéressant de demander quand même.
C'est intéressant, effectivement. Et il y a plein de choses à apprendre ici au Salon de l'Agriculture. Vous pourrez donc découvrir, si vous ne les connaissez pas, les pommes de terre de Touquet Savour. C'est aujourd'hui l'entreprise qui va bien. Merci d'être venu nous en parler sur Europe 1.
Merci à vous.
Il est 13h49. Europe 1, Raphaël Duchemin.
Ils mettent des légumes frais du moment dans votre panier, produit juste à côté de chez vous, au bout du champ, et la solution en Ile-de-France pour manger local. À tout de suite.
13h50, on vous retrouve Raphaël Duchemin en direct du Salon de l'Agriculture pour la suite et fin de La France Bouge. Et on termine par une proposition, une solution pour manger local.
Oui, des fruits et des légumes de saison récoltés le matin. Et dans votre assiette le soir, une start-up, Benjamin Lévesque, a trouvé la solution.
Mais oui, ça s'appelle Au bout du champ et ça existe depuis plus de 4 ans. Il suffit d'aller dans l'un des 8 points de vente à Paris. La promesse, eh bien, mettre dans votre panier des carottes, pommes de terre ou salades récoltées le matin même, à moins de 50 km de la capitale, que ce soit dans les Yvelines ou dans l'Essonne par exemple. Et c'est ouvert 7 jours sur 7 en fin de journée entre 16h et 20h. Et c'est parfait pour déguster ces fruits et légumes ultra frais.
Bonjour Julien Adam.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur d'Au bout du champ. Racontez-moi, ça part d'un constat ce projet ?
Ça part d'une multitude de constats, en fait.
Oui.
On en a parlé tout à l'heure dans l'émission. C'était tout d'abord au niveau du consommateur, lui, de savoir où et à qui il achetait son produit. Et là, on va parler de maraîchage aujourd'hui. Mm-hmm. Nous, on fait vraiment que du fruit et légumes.
Fruits et légumes, ouais.
Exactement, tout à fait. Donc, c'est à qui il achète. Et finalement, nos producteurs incarnent leur marque, à eux, leur propre marque. Et le deuxième constat, c'était, mais finalement, qu'est-ce qui différencie une salade d'une autre ? Dans la distribution classique, et comment redonner de la valeur à une salade. Et ça a été ça, notre point de départ, c'était de se dire, on a des producteurs maraîchers en Ile-de-France qui subissent des pressions au niveau immobilier, enfin voilà, on connaît tous leurs problématiques, et au niveau des prix, ils sont concurrencés par d'autres producteurs qui viennent parfois du bout du monde, et c'était comment finalement redonner un peu de valeur à une salade. C'était vraiment le point de départ.
Benjamin.
Ça a été facile d'aller justement au contact de ces producteurs franciliens. Il y en a beaucoup
Alors, ça a été... Oui, on a beaucoup de producteurs en Ile-de-France. L'Ile-de-France, c'est 50% de terres agricoles. Bien évidemment, pas qu'en maraîchage, mais c'est quand même énorme. Et puis après, on a subi avec mon cofondateur Joseph Petit un petit peu si vous voulez, c'est le petit Parisien qui débarque à la campagne dans les Yvelines avec ses chaussures et qui est là à demander à des producteurs, est-ce que vous ne voulez pas nous vendre votre cajot de salade récolté du matin, parce qu'on pense que la valeur, nous, est là, c'est la valeur de la salade récoltée le matin, du produit ultra frais, chose qu'en retail, aujourd'hui, personne ne fait.
En revente, hein, donc en...
Tout à fait.
Et puis, c'est pas plus cher que finalement chez votre primeur classique
Alors là, encore une fois, par rapport à notre primeur classique, pas du tout. Il faut consommer deux saisons.
Votre salade, par exemple, elle est à combien aujourd'hui ?
Aujourd'hui, elle oscille entre 1,20 et 1,40 pour un magasin dans Paris. On essaye d'avoir des choses vraiment raisonnables en termes de coûts. Pourquoi ? Parce qu'on a repensé toute la chaîne logistique. La chaîne logistique, c'est récolter le matin. Ce sont nos propres salariés qui vont directement dans les fermes et qui peuvent justement ramener la production l'après-midi.
Alors justement, récolter le matin, vendu le soir, qu'est-ce que vous faites des invendus et est-ce qu'il y en a ?
Eh bien, c'est ça la clé, c'est qu'on est à moins d'1% de perte. Pourquoi ? Parce qu'on fait une commande à nos producteurs tous les soirs. Tous les soirs, on commande à nos producteurs. Et ça nous permet, si vous voulez, de limiter. Dans un magasin classique à Paris, on va vendre 100 salades par jour, à peu près. On va en commander 95, 105, mais pas beaucoup plus.
Nicolas, le coach ?
Ça ne peut que marcher. Je vais d'ailleurs suivre l'histoire. Elle existe depuis combien de temps ?
2013.
Depuis 2013, voilà. Bon, donc ça marche déjà. Mais à Paris et partout ailleurs, on veut du local. Quand c'est frais, on sait d'où ça vient. Il y a un producteur qui a récolté ça le matin pour le consommer le soir. Ça n'est pas possible que ça ne marche pas. Est-ce que vous pouvez me dire si ça progresse fortement, si ça nécessite encore plus de communication ? Ça me semble tellement évident d'imaginer un immense succès autour de cette initiative. Qu'est-ce qui se passe pour vous ?
Nicolas, vous prenez de la place au niveau communication. On va essayer de vous rattraper.
Faut le pousser
en fait,
un petit peu, hein.
Aujourd'hui, le concept, en 4 ans, 4-5 ans, c'est 8 magasins, 60 salariés, donc CDI en interne chez nous.
Donc ça crée de l'emploi.
Ça crée de l'emploi et ça crée de l'emploi dans les fermes. On a des producteurs cette année qui nous disent « Première année où je ferme, je peux partir en vacances. Merci les gars. » Donc ça progresse fortement, c'est 25% par an en plus de chiffre d'affaires. En revanche, on a notre problématique à nous, mais on l'a choisi, c'est le retail. À la différence de ce qu'on a pu voir avant sur Internet, c'est que le foncier, pour une jeune entreprise comme nous, c'est très compliqué et dur d'ouvrir des points de vente.
Comment on fait pour commander, si je veux, là, demain soir ?
Mais justement, vous ne commandez rien,
non,
en fait. C'est-à-dire que c'est des points de vente physiques. Ce sont des points de vente physiques. C'est-à-dire que si vous rentrez dans un magasin et que vous voulez simplement une salade, ben vous revenez tous les jours pour avoir votre salade fraîche et il n'y a pas de gâchis.
D'accord, donc je vais dans un magasin et je suis sûr que c'est ultra frais.
Exactement.
Alors justement, des magasins à Paris, mais ailleurs, c'est pour quand? Quand est-ce que vous allez développer au bout du champ en France, partout?
On a beaucoup de demandes, on a beaucoup de demandes, Bordeaux, Toulouse, et c'est surtout une demande des producteurs. C'est-à-dire qu'on a un site internet où les producteurs viennent et s'inscrivent chez nous, et on a une forte demande de producteurs. J'espère que notre premier magasin va ouvrir très rapidement en dehors de Paris et de la région parisienne pour aller soutenir.
Dans quelle région?
Le sud, le sud-est, voilà.
Bon. Avignon, Carpentras, c'est bien.
On vous suivra en tout cas, vous viendrez nous en reparler.
Avec grand plaisir.
Ça s'appelle Au bout du champ, Benjamin.
Exactement.
C'est la solution aujourd'hui sur Europe 1. Merci d'être venu avec nous, nous rejoindre ici au Salon de l'Agriculture. Merci à Nicolas Chaban qui était notre coach. Nous, Benjamin, on se dit à demain ici, toujours sur le stand France Dardelais, et nous parlerons demain de rémunération. Ça va intéresser Nicolas, rémunération
et
des agriculteurs.
Et puis la solution, ce sera lesgrappes.com.
À demain.